Le témoignage est difficile à supporter, mais il faut que nous soyons confrontés à la réalité qui se vit dans ce monde. 215 millions de chrétiens sont persécutés. Persécutions sous toutes sortes, verbales, des coups, emprisonnés. Mais 215 millions de chrétiens sont persécutés. Ce matin, je voudrais partager avec vous un texte de la Bible, de la parole de Dieu qui vous a été indiqué au début de cette vidéo et qui est cher sur le cœur de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, ce matin, veut encore nous le rappeler. Aimez vos ennemis. Dans Luc 6, 35, nous lisons « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. » Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Nous lisons aussi dans Matthieu 5, 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour tous ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez mes ennemis. Quel commandement difficile. Peut-être dirons-nous ce matin, impossible. Comment aimer nos ennemis ? Serait-ce l'enseignement le plus radical que Jésus a jamais prononcé? Eh bien, moi je vous dis, ça va s'afficher peut-être, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ouh. Alors ce n'est pas Jean qui vous parle ce matin. Ce n'est pas la vidéo qui a été très dure qui vous parle ce matin, mais laissez l'Esprit de Dieu qui est en vous vous interpeller. Si nous regardons un peu le contexte, quand Jésus a dit cela, Jésus prononce ces mots alors qu'il prêche deux sermons dans lesquels il énonce les valeurs et la moralité du royaume de Dieu. Vous connaissez le royaume de Dieu, amen. Ce sont le sermon sur la montagne de Matthieu et le sermon dans la plaine de Luc. Quelques versets avant, dans les Béatitudes, Jésus parle de la persécution. Merci Seigneur, nous sommes dans un pays libre et nous ne sommes pas persécutés. Quoique en France, il y a des frères et sœurs qui sont peut-être pas mis en prison, mais qui sont persécutés peut-être par leur famille, les amis, à cause de leur foi. Dans Luc 6, 22, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsque on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Dans Matthieu 5, 11, « Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Bien sûr, dans Matthieu, cet enseignement fait partie de plusieurs leçons qui commencent avec « Vous avez entendu ». Et Jésus complète avec « Moi, je vous dis. Je vous dis. » À chaque fois, Jésus prend une loi morale et l'amène jusqu'à sa pleine et vraie expression dans le royaume de Dieu. Lorsque celui-ci sera accompli dans Matthieu 5, 18, le dernier de ses enseignements concerne l'amour pour les ennemis. Dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, il est dit « Tu aimeras ton prochain ». Et on avait ajouté, et tu détesteras ton ennemi. De bouche à oreille, bien sûr. On est tordu, hein? Aujourd'hui, c'est pareil, vous savez, mes frères. Excusez-moi pour le mot tordu, c'est pas très éloquent, mais c'est un peu ça, des fois. Il faut employer des mots un peu, hein? Et tu détesteras ton ennemi. Jésus reprend ce dicton en disant, « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Les non-croyants, les pécheurs que j'étais, aiment ceux qui les aiment. Hein? Non? Ils aiment être aimés. Et avant de connaître le Seigneur aussi, j'aimais être aimé. C'est facile. Et ils haïssent ceux qui leur font du mal. Lui, je ne l'aime pas parce qu'il me fait du mal. Jésus explique que si nous voulons devenir comme notre Père, nous devons être différents jusqu'à aimer ceux qui nous font du mal. Mes frères et mes sœurs, nous devons être différents. Mais pourquoi tu l'aimes, lui? Il t'a fait telle grâce, il t'a fait ceci, cela. Mais pourquoi tu l'aimes? Parce que Dieu veut que je l'aime. Et j'obéis à mon Dieu. Je voulais préciser dans cet enseignement ce matin, et je prends un peu le temps, ce commandement n'a rien à voir avec les sentiments. Comprenez les sentiments, vous connaissez les sentiments? Non? Hein? Mes sentiments. Seigneur, mais je ne peux pas l'aimer. Seigneur, je ne peux pas lui pardonner. Ce matin, je veux vous parler de l'amour agapé. L'amour que Jésus demande de la part de ceux qui le suivent n'est pas basé sur des sentiments, je vous l'ai dit, mais consiste en actes concrets. Amen. Ouh. Seigneur, tu vas nous amener où ce matin? Seigneur, on t'a loué. Et je remercie encore pour ces chants qu'Olivia a choisis. On t'a loué, digne l'agneau. Oh, j'ai digne l'agneau. Tu m'as loué ce matin. Tu m'as adoré. Alors je te demande une chose. Aie des actes concrets ce matin dans ta vie. Dans un autre évangile, Jésus définit l'amour de la manière suivante. Quant à vous, tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la malédiction, la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Vous, au contraire, aimez vos ennemis. Faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. On a appelé ce commandement l'enseignement le plus puissant de l'Écriture sur la signification de l'amour. L'amour agapé n'est pas forcément en lien avec nos sentiments. Il n'est pas aligné sur nos inclinations naturelles. Ce n'est pas naturel chez nous d'aimer. Il n'est pas dirigé vers ceux avec lesquels nous avons des affinités. Il recherche le bien de tous et ne fait pas de mal aux autres. C'est l'amour qui donne au lieu de prendre. Moi, j'aime bien les petits. Vous avez des petits-enfants, des enfants en bas âge? Vous savez, il suffit que je présente un des petits-enfants quelque... Il le prend. Et qu'est-ce qu'on dit? Et qu'est-ce qu'on dit? C'est l'amour qui donne. L'amour qui se fait petit au lieu d'occuper toute la place. L'amour qui veut le bien à d'autres plutôt que le sien. L'amour affranchi de l'ego, du moi. Je ne me regarde plus. Ce ne sont pas mes intérêts, c'est l'intérêt de l'autre. C'est l'intérêt de mon frère. C'est l'intérêt de ma sœur. C'est l'intérêt de ceux que je côtoie. Jésus utilise ce verbe d'action, bénissez, prêtez, faites du bien, priez. Cela nous rappelle que c'est à nous de prendre l'initiative. À mes petits-enfants, des fois, ça va demander pardon à Charlotte. Non. Ça, c'est ma petite fille. Va demander pardon à Jonas. Non. Et c'est beau quand un des deux s'approche timidement. Il prend sa sœur ou son frère et il dit « Pardon ». Mes amis, les enfants nous enseignent. Mais alors, mais qui sont mes ennemis ? Jean, t'exagères. T'exagères ce matin. J'ai pas d'ennemis. On n'a pas d'ennemis, n'est-ce pas ? On n'a pas d'ennemis. Dans un sens large, un ennemi est quelqu'un qui est contre moi. Le dictionnaire Larousse dit « personne qui veut du mal à quelqu'un qui cherche à lui nuire ». Ah, d'accord. Je comprends un peu mieux là. Et le grec « ektros » vient de « ektro », c'est haïr, hostile. Et le diable, qui est le pire ennemi du gouvernement divin, est notre ennemi. Et je voudrais vous dire une chose, le diable a horreur de l'amour. Vous m'entendez ? Le diable a horreur de l'amour. Horreur. Ce n'est pas dans ses gènes. Pourtant, c'est une créature de Dieu. Jésus parle d'ennemis personnels. Mes ennemis personnels ont tendance à être beaucoup plus proches de moi. En fait, il faudrait déjà commencer par la maison. C'est pas moi, c'est pas mes idées. Ce matin, dans Matthieu 10, 36, il dit « Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison ». Les ennemis dont parle Jésus ne sont pas des gens dans le lointain, mais des gens proches de nous. Ça fait mal. Ça fait mal, Seigneur. Qui ne nous ont jamais touchés, mais proches de nous, nous avons à rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément contentes de nous voir. Peut-être travaillez-vous avec des personnes qui vous détestent. Ah, Jean, je comprends là. Ah là, Seigneur, tu es en train de... Seigneur, jusqu'où tu vas aller ? Ce que nous sommes en train de voir ne fait pas du bien à notre chair, à notre orgueil ce matin. Dieu veut nous mettre devant nos responsabilités. Peut-être travaillez-vous avec des personnes qui vous détestent. Ah, c'est tout ça, je comprends là. Et même, il se peut qu'en venant à l'église, non, Seigneur, bonjour frère, bonjour sœur, j'aime mes frères et mes sœurs, Seigneur. Quoi, Seigneur ? Vous connaissez le film de Don Camillo ? Hein ? Vous faites rire un petit peu, hein ? Quand Don Camillo s'en va, et Alain, avec sa batte de baseball, où tu vas, Don Camillo ? Souvent, vous savez, mes frères et sœurs ont dit, le Seigneur à moi, il ne parle pas. Si, il vous parle. Nous pouvons avoir donc les trois catégories, la maison, le travail, l'église, un jour ou l'autre, des personnes que nous aimons nous blesseront. Ça vous est arrivé ? Il est difficile d'obéir aux paroles de Jésus. Il faut se mettre devant l'évidence. Il ne faut pas faire, excusez-moi l'expression, les costauds. Il est difficile, il nous dit, d'aimer des gens très proches de nous qui nous ont blessés profondément, des gens qui ont profité de nous, qui ont fait de nous leurs victimes. Comme c'est difficile d'aimer dans ce cas-là, mais c'est encore plus difficile d'aimer quand nous avons été gravement offensés et que nous, notre confiance, vous connaissez, a été détruite. Ce qui n'est pas le cas avec les personnes vivantes à l'autre bout de la planète, je ne connais pas. Mais ce sont les gens proches de moi. La moralité de Jésus, mon frère, ma sœur, est positive. Cet enseignement qu'on a appelé dans le passé, ou encore maintenant, la règle d'or n'était pas nouveau, cet enseignement. Mais jusque-là, il avait toujours été exprimé sous un aspect négatif. Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Vous avez entendu cela? Il y a un orateur grec, 400 ans même avant Jésus, a dit les choses qui te mettent en colère lorsque tu en souffres par les mains des autres, ne les fais pas aux autres. Les stoïciens pensaient, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Le rabbin, il est l'ancien, quand on lui demande de résumer l'enseignement de la Torah en se tenant sur une jambe, a dit, ce que tu ne voudrais pas que l'on te fît, ne l'inflige pas à autrui. Et Philon d'Alexandrie, je cite quelques personnalités, philosophe juif, hellénisé, ayant vécu au début de l'ère chrétienne, a enseigné ce que tu ne voudrais pas endurer toi-même, ne le fais pas aux autres. Mais Jésus va plus loin. Alléluia. Mais Seigneur, Jésus va plus loin. Jésus va plus loin, mon frère, parce que l'enseignement de Jésus est radicalement différent. Selon lui, il faut commencer par faire du bien, même à ceux qui nous font du mal. Il faut aimer nos ennemis, c'est à nous de prendre les devants sans penser d'abord à nous-mêmes. Le moi. Sous le pied, le moi. Ton orgueil. Sous ton pied. Ton vieil homme. Je ne dis pas vieille femme parce que je respecte mes sœurs. Dieu nous demande de faire la même chose que lui. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il ne pratique pas lui-même. Quand nous aimons nos ennemis, nous agissons comme Dieu. C'est mon papa. Est-ce que tu es fier de ton père? C'est mon papa. Et Dieu est amour. Et il faut que cet amour se vive en moi. N'oublions pas qu'avant notre conversion, nous aussi, nous étions ennemis de l'Évangile. Nous étions des ennemis. Et Dieu nous a convaincus par son Saint-Esprit. Et ce jour-là, je ne sais pas vous, mais j'ai pleuré. Quand Dieu m'a attiré à lui, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi moi? Je ne mérite pas, Seigneur. Pourquoi moi, mon Dieu? Parce que je t'aime. Une flèche dans mon cœur. Parce que je t'aime. Et je t'ai tellement aimé que mon fils est venu. Et il est mort sur la croix pour toi. Aimer ses ennemis est un témoignage immense de l'amour de Dieu. Aimer nos ennemis, c'est la meilleure protection contre l'amertume et la colère. Paul dit de ne pas chercher à faire justice soi-même, mais de laisser à Dieu, à sa colère. Notre rôle est d'amasser des braises sur la tête de nos ennemis par des actes de générosité. Ah, Seigneur, avec ce qui m'aime, d'accord. Non ? Mais avec ceux qui ne m'aiment pas, oui, mon fils, même avec ceux que tu n'aimes pas. Il nous dit dans la parole de Dieu, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Dans Romains 12, 20, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. » Romains 12, 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. Ouh, le Seigneur. Seigneur, Seigneur. D'accord. D'accord, Seigneur. D'accord, Seigneur. Je comprends. Je comprends, Seigneur. Mais où tu vas me mener à la faillite, Seigneur? Seigneur. Seigneur, je veux te suivre, Seigneur. Je veux être ton enfant, je veux t'obéir jusqu'au bout, Seigneur. Mais là, Seigneur, ramasser des charbons sur la tête signifie l'amener à avoir honte et à vouloir changer. Serait-ce une image de quelqu'un qui rougit de honte, qui a mauvaise conscience? Une autre interprétation de cette expression est de faire preuve de générosité, donner des braises à celui qui n'en a pas, qui n'a pas de feu pour lui permettre d'en faire un. Dans les deux cas, le but est le même, amener l'ennemi à changer d'attitude. Oh Seigneur, ça va être dur. Mais Dieu te dit que ce qui est dur pour toi, avec l'esprit qui est en toi, si tu veux, tu pourras l'accomplir. Amen. Tu pourras. Dis-le, Seigneur, je ne peux pas. Dites-lui à Dieu, Seigneur, je ne peux pas. N'ayez pas honte, je ne peux pas l'aimer, Seigneur. Je ne peux pas lui tendre la main à cette personne. Mais tu m'as dit de le faire. Alors aide-moi, Seigneur. Et Dieu va t'aider. Et tu vas le faire. Dans le témoignage vidéo qu'on a vu tout à l'heure, elle était confrontée à sa propre douleur. Elle devait aussi gérer la peine et la colère de ses enfants. Deux jours après la mort de son mari, voici la prière qu'elle a prononcée. « Seigneur, donne-moi de vite pardonner et d'avancer, de ne pas rester sur une douleur ou sur une colère. Cela m'a coûté, Seigneur. » Elle l'a dit. Et peut-être devant Dieu, tu vas faire cette prière. Cela me coûte, mon Dieu. Mais je veux t'obéir. Je veux te dire oui. Et rentrer dans l'obéissance. Amour plus pardon. Plus fort. La vie. Amen. Alléluia. La vie de Dieu, la vie en moi, la vie de Dieu. Haine et rancœur, c'est la mort. Donne-moi de pardonner. Une petite histoire. Un professeur d'institut biblique devait apporter un enseignement sur le thème du pardon. Pour le prochain coup, il a dit à ses étudiants, « Chacun de vous apportera un sac de pommes de terre. » peut-être qu'il va nous faire des frites, le professeur. Aujourd'hui, chaque étudiant est invité à inscrire sur chacune des pommes de terre de son sac le sac d'une personne à qui il refuse de pardonner. Ah, voilà, 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 voilà. C'était pas pour faire des frites. Et l'enseignement pratique se poursuit. Pendant le mois qui vient, ordonne le professeur, partout où vous irez, vous porterez votre sac de pommes de terre sur le dos, chacun le sien. C'est vrai, hein ? C'est une histoire vraie. Un fardeau qui parut bien vite insupportable à l'ensemble des étudiants, et chacun de se rendre compte du poids spirituel, du rancœur qu'il portait en lui, sans parler du degré d'énergie qu'il gaspillait en transportant son fardeau et du danger qu'il courait à laisser ce fardeau à un mauvais endroit. Puis à mesure que les pommes de terre commençaient à pourrir, pourquoi vous rigolez ? Un mois sur toi. Matthieu 6, 14. Écoutez ces paroles. Si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Mes bien-aimés, tel est le prix à payer quand on refuse de pardonner. Le pardon n'est pas seulement un don que vous faites aux autres, c'est aussi et surtout un cadeau que vous vous faites à vous-même, car en refusant de pardonner, un boulet s'attache à votre cœur. Le bonheur et la bénédiction s'enfuient loin de vous. Qu'allez-vous donc faire du fardeau de faute que vous refusez de pardonner ? Aimeriez-vous vraiment que Dieu vous pardonne avec la même enthousiasme ? J'arrive à la fin, mon frère, ma sœur. Aimer ses ennemis, c'est la meilleure protection contre l'amertume et la colère. Ouh, vous êtes toujours là ? Peut-être que le four s'est mis en marche pour le rôti, je ne sais pas. Tu as peur peut-être que le roast beef commence à brûler. On est là, amen, on est toujours là ensemble. Paul dit de ne pas chercher à faire justice soi-même, mais de laisser cela à Dieu. Notre rôle est d'amasser des braises au-dessus de l'autre. Alors, tu vas me dire, mais je ne comprends pas, Jean. Dieu est tout-puissant. Pourquoi des ennemis ? Pourquoi dans ma vie, il y a des ennemis ? Pourquoi il y a des gens, et Olivier, qui m'agacent, qui m'énervent ? Pourquoi il y a des gens qui ne me parlent plus ? Pourquoi y a-t-il dans ma vie certaines choses là, Seigneur ? Pourquoi ? Mais dans nos vies, tout ce qui nous arrive est voulu par Dieu. Amen ? Ah, amen ? Amen. Dieu sait toutes choses et il permet dans nos vies quelques difficultés. Moi, je dis, celle des fois, c'est la main de Dieu où les doigts s'écartent. Vous savez, il permet. Il permet, mais pourquoi ? Nos ennemis, premièrement, nos ennemis nous font rester humbles. Humbles. Oui, Seigneur. Ouh, Seigneur. Humbles. Petit. Petit. Jésus n'a rien dit. Il a été flagellé, il a été craché au visage, il a été moqué, il n'a rien dit. Père, pardonne-leur. Deuxièmement, ils nous conduisent à nous mettre à genoux. Oui, parce que quand tout va bien, vous savez, Dieu reste lointain, on est loin de lui. Troisièmement, il révèle nos faiblesses et nous découvrons combien nous avons besoin de Dieu. Amen. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas les épisodes des bisounours. Vous connaissez ? Pour ceux de mon âge, là. Tout va bien chez les bisounours. Vous connaissez, hein ? Les grands cœurs, tout ça. Mais dans la vie chrétienne, c'est autre chose, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. Quand vous dites « Seigneur, apprends-moi à aimer », qu'attendez-vous ? Ça vous a jamais fait sourire un peu, hein ? Mais Seigneur, je t'ai dit de me remplir. Pourquoi as-tu mis cette personne à côté de moi ? Aimer nos ennemis est l'un des enseignements le plus profond et difficile donné par Jésus. C'est ce qui démarque les chrétiens du reste du monde. Ce n'est rendu possible que parce que nous sommes sauvés uniquement, écoute bien, par la grâce. Dieu nous a aimés le premier, nous qui étions ses ennemis, et qui nous a réconciliés, écoute bien, gratuitement. Nous aimons parce que nous sommes aimés. Amen. 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 C'est un miracle, mes frères et mes sœurs. C'est un miracle. C'est un miracle. Et Dieu veut produire ce miracle ce matin au milieu de nous. Amen. Qu'est-ce qu'il y a, Jean ? Qu'est-ce que... Dieu va produire ce miracle au milieu de nous. Dieu, ce matin, va produire ce miracle dans nos vies. En aimant nos ennemis, nous imitons Dieu. Ouh, alléluia, alléluia. Nous imitons Dieu. L'Église persécutée nous enseigne à prier pour les persécuteurs. Dans la persécution, l'Église est souvent conduite à aimer ses persécuteurs. Nous qui ne vivons pas souvent le même type d'opposition, nous pouvons nous laisser inspirer par son exemple. Voilà donc l'étape finale dans le pardon. Nous avons pleinement pardonné lorsque nous pouvons bénir ceux qui nous ont blessés profondément. Un jour dans ma vie, j'avais un problème avec un ou deux frères. Et j'étais là, Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, c'est dur. J'ai crié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Vous savez ce qu'il m'a dit, le Seigneur ? Il m'a dit, bénis-les. Mais Seigneur, je les aime quand même. Bénis-les. Tous les jours, tu vas dire leur prénom et nom. Et tu vas les bénir. Tous les jours, mes frères et mes sœurs. J'ai dit, je les bénis. Au bout de 15 jours, l'Esprit de Dieu en moi m'a fait voir ses frères d'une autre façon. J'ai reconnu mes erreurs. Certes, ils avaient des erreurs, mais j'ai reconnu aussi mes erreurs. Bénissez. Bénissez, bénissez. Nous ne serons libérés que lorsque nous les aurons libérés au point de les bénir au nom du Seigneur. Aimer nos ennemis, je termine par cette phrase. Aimer nos ennemis, c'est la meilleure protection contre l'amertume et la colère. Prenez-le en photo. Prenez-le en photo. Pas avec le portable, hein, si tu veux, mais... Aimer nos ennemis, c'est la meilleure protection contre l'amertume et la colère. Je vous invite à vous lever. Nous n'allons pas faire vibrer la corde de sensiblerie, mais je crois que depuis le début de ce culte, Dieu est présent au milieu de nous, est présent en nous par son Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez venir les... Oui, oui, amen. Amen. c'est pas ce que je vous ai dit qui doit déclencher. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en vous qui va déclencher cette démarche de pardon. S'il te plaît, s'il vous plaît, fermons les yeux maintenant. Demandons à Dieu. À qui peut-être je n'ai pas donné mon pardon. Demande à Dieu, celle ou celui à qui tu as offensé. Père, pardonne mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Tu es là ? Tu es dans cet état de prière. Maintenant, fais un pas d'obéissance. Mon Dieu, tu m'as demandé de aimer et de pardonner. Tu es là. Tu as fait cet autre pas. Mais Seigneur, j'ai essayé maintes fois. J'ai voulu, Seigneur, mes intentions étaient bonnes. Je ne suis pas arrivé. Mais tu dis, et je crois que tu vas m'aider maintenant. Amen. Alors, tout en priant, tu sais, lâche ta main maintenant. Lâche, ouvre ta main et accorde le pardon. Ouvre ta main et lâche ce qui t'a fait mal, ce qui t'a blessé. Jésus à Golgotha, vous savez ce qu'il a subi. Vous vous rendez compte ce que lui, le Fils de Dieu, a subi pour nous. Dieu est amour. Mon Père est amour. Alors Seigneur, maintenant, parce que tu me demandes, Seigneur, dans ton cœur, toujours dans la prière, bénis celui qui t'a fait du mal. Bénis-le. Dans ton cœur, dis son nom. Dis son nom, Seigneur. Lui, je le bénis. Donne-moi l'occasion, Seigneur, de me réconcilier avec lui. Ne fais pas les choses trop rapidement. Dieu a son temps. Mais rentre dans cette démarche de pardon. Rentrez dans cette démarche de pardon, même dans l'Église. Tout à l'heure, en sortant, peut-être, va vers lui, va vers un frère et lui dire, mon frère, s'il est au courant, bien sûr, attention, ne faisons pas des bêtises, hein. Va voir un frère, une sœur peut-être, et lui dire, écoute, je suis désolé, il y en a assez, hein. Il y en a assez, pardonne-moi, pardonne-moi. Les couples ce matin, les couples, peut-être qu'il y a des difficultés entre monsieur et madame. Prends-lui la main, prends la main de ton épouse, prends la main de ton époux, prends-lui, maintenant, prends-lui, s'il vous plaît, prends-lui. Parce que l'ennemi, le Satan, vous savez, c'est le diviseur, c'est le diviseur, et même dans les couples. Tu le prends et tu la prends et même s'il n'y a rien entre vous, dis-lui, je t'aime. Ouh, dis-lui, je t'aime. Dis-lui, je t'aime. Dis-lui. Oh là 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 là, dis-lui, je t'aime. Monsieur, messieurs, messieurs, dites à vos épouses, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je termine là. Seigneur, nous te bénissons. Je suis conscient que j'ai peut-être embêté par mes paroles, mais ta parole, Seigneur, vient toujours pour séparer en nous de ce qui est du moi et de ce qui est de toi, Seigneur. Je te prie de bénir cette communauté, de bénir les jeunes et les moins jeunes, et non nous de vivre dans les temps qui viennent, des temps de réconciliation, de pardon, dans le beau nom de Jésus. Amen.
Parfois les mots sont...